L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. On va remettre ce temps maintenant au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi encore une fois. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ton cœur pour nous. Tu nous aimes tous individuellement. Tu connais nos besoins individuels, tu connais nos familles, tu connais les situations des couples dans cette maison, tu connais tous les détails de nos vies. On te remercie parce que non seulement tu prends le temps de nous connaître, mais Seigneur, tu veux également restaurer chaque portion, chaque partie de notre vie qui a besoin de restauration. Aujourd'hui, on vient devant toi et on te remercie pour l'œuvre du Saint-Esprit dans cette maison. On te remercie pour les vies transformées. Aujourd'hui même, on s'attend de recevoir quelque chose de toi. On relâche notre foi en ce moment. On n'est pas là pour écouter seulement, mais on est là pour recevoir et vivre des percées dans nos vies. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 7, on va commencer au verset 24 à 27. Donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 24 à 27, le titre ce matin, c'est la famille dans la parole. La semaine passée, nous avons simplement prêché sur la vie dans la parole. On a donné l'ordre de Dieu en général pour quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. Et puis, que vous soyez un vieux chrétien ou un nouveau, c'est l'ordre de Dieu ne change pas. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est aller se concentrer plus au niveau de la famille. Vous savez, si l'ennemi peut détruire des familles, premièrement, il va commencer souvent par les couples. Il va essayer de détruire un couple pour détruire la famille. S'il peut arriver à détruire la famille, il va détruire des églises. Parce que l'église est composée de familles. Et quand l'église est détruite, quand les familles sont détruites, on détruit la société également. Donc, le diable, il est pas fin. Je peux vous dire ça. C'est une des leçons que vous avez apprises ici à EVQ. Le diable, il est pas fin, mais Dieu est bon. Hein, c'est ça, c'est pas trop compliqué. Ce qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire vient du royaume des ténèbres. Et ce que Dieu veut faire, ce que le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et ça, ça veut dire on est censé vivre la vie de Dieu à tous les niveaux dans nos vies. À tous les niveaux, pas juste une partie. Des fois, les gens sont là puis ils disent, bien moi, je suis correct à tel niveau dans ma vie. Moi, je me souviens, j'ai évangélisé un monsieur, ben, je l'ai pas évangélisé, c'est un enfant de Dieu. Mais je l'encourageais, je l'exhortais dans les voies de Dieu au niveau de sa guérison physique. Et il souffrait du diabète et puis lui me disait, ben écoute, il dit, je veux pas entendre parler de la guérison, moi, j'ai des problèmes financiers puis un problème à la fois, moi, je veux pas trop m'éparpiller, je vais me concentrer pour juste mes finances, c'est ça qui me préoccupe. J'ai dit OK, mais j'ai dit tu sais, Dieu est capable de guérir ton corps et s'occuper de tes finances en même temps. Parce que Dieu est assez grand. Nous des fois on est là pis on dit ben là moi c'est cette partie-là de ma vie qui m'importe, c'est ça qui est vraiment qui me préoccupe, mais on peut se décharger sur Dieu de tous nos soucis. Puis Dieu est capable, lui est capable de gérer tout ça. Imaginez Dieu est capable de gérer la vie de chaque personne ici. Mais appelez-moi pas tous en même temps, moi je suis pas capable de le faire. Moi je suis pas capable de gérer les problèmes de tout le monde, mais Dieu, je sais pas comment il fait, mais c'est pour ça qu'il est Dieu. Dieu est Dieu, puis Dieu est capable de, tu sais, entendre les prières de tous ses enfants qui ont tous des problèmes, Seigneur intervient, puis Dieu il est capable. Dieu est capable et il veut en plus. C'est ça qui est merveilleux, Dieu est capable et Dieu veut aujourd'hui, mais vous savez, comme toujours à EVQ, vous ne serez pas des auditeurs pour juste être là puis dire « Ouais, c'est un message que peut-être je pourrais appliquer. » Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je veux vous exhorter, comme Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »« Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, c'était pas juste une idée. Je pense qu'on va servir l'Éternel. C'était une décision. Dites « décision ». Vous devez vous décider que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas une question que mes enfants veulent ou non. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on prend la décision que dans ma famille, dans mon foyer, nous allons honorer l'Éternel Dieu. Amen. Et on peut prendre la décision et on va le voir ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner 30 secondes. Commencez à imaginer la famille que vous souhaitez devenir. Êtes-vous capable de commencer à penser à ça? Ce que vous voulez comme famille? Ce que vous voulez vivre comme famille? Êtes-vous capable d'imaginer comment Dieu peut bénir votre famille? Êtes-vous capable? Ou vous êtes tellement détaché des rêves? Là, si vous êtes capable d'avoir, fermez vos yeux deux secondes, là, c'est ça ma famille, béni au maximum. C'est ça que je peux m'imaginer. Et là, Dieu, il nous dit dans Éphésiens qu'il veut faire au-delà de ce que vous pouvez même imaginer ou penser. N'est-ce pas merveilleux? On sert un grand Dieu, mais il a besoin de votre foi. Dieu a besoin de votre foi pour intervenir dans votre vie. Il a besoin de vos paroles de foi, il a besoin de plein de choses de vous. Donc, on n'est pas juste là ce matin pour recevoir un message puis juste le recevoir dans nos oreilles puis dire « ouais, mais c'est bien beau, des beaux principes ». Non, on doit prendre la décision « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Moi, j'ai décidé, dans ma famille, c'est comme ça, ça va marcher. Et vous savez, moi, j'ai eu le modèle de mes parents, un bon modèle. Mes parents ont toujours servi le Seigneur toute ma vie. Moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Je me souviens une fois dans ma vie, j'ai dit ça à mes parents. J'étais jeune. Je me souviens, on est de déménager. J'avais peut-être 5 ans. Ça me tente pas d'aller à l'église à matin. Avez-vous déjà vécu ça, peut-être? Et j'ai appris assez rapidement que c'était pas une option. Je me souviens, mon père a dit que ça tente pas. Tu nous suis. On est des chrétiens. Tu suis la caravane. Puis là, c'était classé toute ma vie. J'ai pu jamais repenser même une possibilité de manquer une réunion. Une fois, mon père me l'a dit, c'était la loi chez nous, on est des enfants de Dieu. Nous, on va à l'église, ça fait partie de notre vie. Et puis, on va le voir ensemble. Ce matin, vous avez besoin de prendre une décision, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Amen. Et si vous prenez la décision, si vous êtes ouvert tout au long de l'enseignement ce matin, peut-être vous dites, ouais, mais mes enfants sont élevés, ça me concerne pas. Oh, ça vous concerne parce que peut-être vous aurez des petits-enfants un jour. Et peut-être Dieu peut se servir de vous pour encourager quelqu'un dans les bonnes voies de Dieu. Est-ce que c'est possible? Ou peut-être vous verrez des situations où les gens ont besoin d'aide et puis vous allez être la personne ressource pour leur dire, voici ce que Dieu veut faire dans ta vie et donner de l'espoir à quelqu'un. Est-ce que ça se peut, ça? Amen. Donc, on est tous ouverts d'esprit ce matin, n'est-ce pas? On est tous là puis on dit, Seigneur, je veux recevoir ta parole parce que c'est pour moi. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen. Gloire à Dieu. Amen et amen. OK, on va ensemble dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Je vais vous lire dans la version second 21. Il est écrit, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, oh, ça c'est merveilleux, et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. N'est-ce pas merveilleux? Jésus parlait ici, cette maison, l'homme prudent avait bâti sa maison sur le rocher et peu importe les circonstances de la vie, peu importe l'opposition spirituelle, cette maison ne pouvait pas s'écrouler parce qu'elle était établie sur le rocher et nous savons que Jésus et sa parole, c'est le rocher pour nos vies. Amen. Amen. Donc, quand je suis d'accord, moi je vais dire amen et si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire à l'occasion, ça ne coûte pas plus cher. Il n'y a pas de frais, rien de ça. Amen. Verset 26 maintenant. « Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou. » Oh, wow, c'est éloquent, ça. Ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Vous pourrez demander à quelqu'un en construction ici. Vous pouvez leur demander, est-ce que c'est une bonne idée de construire une maison sur le sable? Et puis, ils vont vous dire que même aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Mais vous ne voulez pas bâtir votre maison sur le sable et vivre la ruine, n'est-ce pas? Vous voulez être établi sur le rocher et son nom est Jésus. Amen. Donc, si on veut bâtir notre vie spirituelle, on veut établir notre foyer sur le rocher, nous allons persévérer, nous allons vivre, oui, peut-être la pluie, peut-être le vent, mais on va rester ferme dans les voies de Dieu. Amen. La parole de Dieu est le fondement de tout enfant de Dieu et de tout foyer chrétien. Ce qu'on veut voir ce matin, c'est l'ordre divin dans la famille. Et par la suite, on va voir peut-être un contraste avec ce qu'on voit parfois dans la société pour revenir à la parole. Des fois, les gens disent, bien, mes voisins sont comme ci, sont comme ça, puis c'est tout à fait normal. Moi, j'ai entendu plein de choses dans ma vie. Bien, c'est normal, c'est la génération d'aujourd'hui. Les enfants sont comme ça, les épouses sont comme ça, les maris sont comme ça. Et puis, que veux-tu, c'est la vie. Alors, que veux-tu? Moi, je veux pas la vie de ce monde, je veux la vie selon la parole de Dieu. Sauf que si ça se passe chez mes voisins, puis c'est tout croche chez mes voisins, chez nous, ça va être tout droit. Amen. Ça ne sera pas tout croche chez nous. Parce que, savez-vous pourquoi? Parce que j'ai décidé, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai pris une décision dans ma vie. J'ai pris une décision et vous pouvez prendre la même décision et vous allez demeurer solide. Votre maison va demeurer solide. Il n'y aura pas de divorce chez vous. Il n'y aura pas de séparation. Il n'y aura pas de guerre chez vos enfants. Il va y avoir de l'harmonie et la paix de Dieu chez vous dans votre maison. Si je vous ai dit, commencez à rêver à votre famille, je peux déjà vous donner des ingrédients d'une famille bénie. Une famille qui vit la présence de Dieu à la maison. Des temps de prière, des temps où on parle de Dieu à la maison et on rêve même de notre maison au ciel. C'est possible avec nos enfants d'avoir des conversations spirituelles, être bénis, chanter et louer le Seigneur ensemble. Moi, j'écoute la musique Southern Gospel, comme vous savez, et des fois, je vais chanter même sur mon ballon d'exercice et mes enfants vont rire de moi, mais c'est correct parce que c'est la musique oinque de Dieu. Et des fois, on va écouter la musique style de ma femme et puis eux, ils vont louer le Seigneur puis moi, je vais attendre que ça finisse. Mais gloire à Dieu, on est dans la présence de Dieu quand même. Non, je fais des jokes. Hein. Ma femme, elle a de la bonne musique quand même. Mais tout ça pour dire, on peut vivre la présence de Dieu. Et ma femme, quand elle se moque de moi, elle fait comme ça. Parce que moi, il y a un petit beat. C'est toujours le même petit beat, mais gloire à Dieu. Mais on peut avoir du plaisir dans notre famille. Savez-vous ça? Vous pouvez être béni au maximum dans votre famille, avoir du plaisir, vous sortez, vous faites des sorties en famille et vous rayonnez la joie de Dieu et la gloire de Dieu. C'est possible, alléluia. Puis je peux vous dire, c'est possible. Et si vous voulez, vous allez le vivre. Si vous décidez aujourd'hui, il n'y a personne au monde qui peut décider pour vous. C'est pas vos enfants qui vont décider pour vous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas les enfants qui décident. C'est les parents. Les parents vont décider. Nous, on est des enfants de Dieu et on va vivre ça chez nous. Et vous allez voir comment on peut le faire. Donc, l'ordre divin. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 5 maintenant. On va aller au verset 22. Je vais vous donner des clés ici tout au long de ce texte-là. Il y a des gens qui vont lire ce passage et puis ils vont faire dire à la Bible toutes sortes de choses. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'arrêter sur chaque point puis juste être sûr qu'on comprenne vraiment. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 22. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Bon, première chose, la femme soumise dans la parole de Dieu, c'est pas une femme tapie, c'est pas une femme dominée. C'est une femme qui a un mari qui l'aime tellement, qui serait prêt à mourir pour elle, et puis puisqu'elle a un mari tellement merveilleux qui l'aime à ce point-là, elle veut elle-même suivre le leadership spirituel de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son mari, c'est un homme connecté avec l'Esprit de Dieu, qui prie, qui a une relation avec Dieu, qui aime sa femme, qui aime ses enfants, et puis qui veut le bien pour sa famille. Amen? Donc, quand une femme connaît son mari comme ça, et puis le mari est selon le cœur de Dieu, la femme, elle aime ça, en fait. C'est une chose, mais dans la société d'aujourd'hui, les gens comprennent mal la soumission, ils comprennent ça vraiment tout croche. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, on n'est pas dans la société, dans la pensée du monde, on est dans la pensée de Dieu, puis on va suivre ce que Dieu nous dit. Donc, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, qui en passant est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans la famille, il y a un chef spirituel. Premièrement, c'est Seigneur Jésus. Et après, Dieu a donné au mari le rôle de responsable, de leader spirituel dans la famille. Amen. Donc, le mari est là et ça ne veut pas dire que la femme est effacée. Elle n'a pas un mot à dire. C'est pas du tout ça. Mais c'est que, admettons, la femme est dans une situation où elle dit, « Mon mari, moi, je ne sais pas ce qu'on devrait faire dans telle chose. » Et le mari dit, « Ben moi, je ressens de Dieu que c'est ça qu'on doit faire. » Il y a la femme soumise qui croit que son mari est à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Elle va dire, ben moi, je t'appuie là-dedans. En ce moment, je ne savais pas. Moi, j'étais incertaine, mais je fais confiance à ton leadership spirituel. Ceci dit, j'ai jamais pris de décision dans ma famille sans consulter ma femme, sans qu'on parle ensemble. Mais comment tu ressens telle chose? Quand ma femme me dit, oh, je me sens vraiment pas que c'est de Dieu, admettons, quand j'ai reçu la vision pour ouvrir une église, pour fonder une église, 5 ans avant qu'on le fasse, j'avais reçu cette vision-là, j'en avais parlé avec mon pasteur, il disait oui, je crois que c'est de Dieu, mais je crois pas que c'est le temps de Dieu. Donc moi, j'ai mis ça sur pause. Et en même temps, ma femme, à l'époque, elle voulait absolument rien savoir d'ouvrir une église. Pour elle, c'était comme, oh, je veux jamais vivre ça, jamais de toute ma vie. C'était son attitude avant. Vous pouvez pas le savoir, là, mais aujourd'hui, ma femme est bénie. OK, mais avant, mais quand c'était le temps de Dieu, ma femme le savait. Ça fait souvent la femme, c'est la voix du Saint-Esprit. Ça, j'ai pu voir. Des fois, c'est comme la voix du Saint-Esprit ou la voix de la femme, ça ressemble pas mal. Souvent. Mais tout ça pour vous dire, on travaille ensemble, mais quand on arrive à une place où, admettons, mon épouse était comme, moi, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je peux dire, ben moi, je ressens, c'est ça. Et puis, elle va suivre la direction, mais je suis pas un dominateur, le mari n'est pas appelé à dominer sa femme, il est là à la célébrer, l'aimer, la chérir. Et on va continuer dans le texte. OK, donc, ici, on voit ici, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, concernant les choses de Dieu, pas les choses dans le monde, pas le péché, rien de ces choses-là. Marie, remarquez bien, maintenant, la responsabilité du mari, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Voyez-vous ici l'intensité de l'amour. Le mari doit aimer son épouse à un tel point qu'il doit être prêt à mourir pour elle. Donc, une femme dans cette situation-là, elle aime son mari, n'est-ce pas? Quand la femme sait, mon mari m'aime tellement, il serait prêt à mourir pour moi, bien, la soumission, c'est tellement facile. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Voyez-vous ici? Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Voyez-vous ici, un homme ne frappera jamais, jamais, jamais sa femme, parce que l'homme, habituellement, ne se frappe pas lui-même, n'est-ce pas? L'homme est appelé à chérir sa femme. Ça dit, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la femme ne mérite pas d'être respectée. Non, aucunement. Il y a un respect mutuel. Mais ici, ce qu'on voit, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle quelque chose vraiment d'important dans le couple. Je vais vous partager ça. C'est super important. On voit que le mari est appelé à aimer sa femme et la femme est appelée à respecter son mari. Certainement, on va avoir l'amour entre les deux, le respect entre les deux, certainement. Mais Dieu est en train de souligner ici qui a un besoin primordial chez le mari, c'est avoir un sentiment que sa femme le respecte. Donc, lorsqu'il va sortir en public, la femme ne va jamais diminuer son mari, mais elle va honorer son mari. C'est la façon de Dieu. Et l'épouse, c'est ce qu'elle a besoin de ressentir premièrement, c'est que son mari l'aime. C'est ça que Dieu nous montre ici. La femme a besoin de ressentir que son mari l'aime véritablement. Certainement, elle a besoin également d'être respectée, puis on ne peut pas manquer de respect et aimer en même temps. Donc, vous comprenez ceci. Mais on voit chez l'homme, oui, il veut être aimé lui aussi, mais même s'il sait qu'il est aimé, mais sa femme lui manque de respect. Il sort dans une soirée, on rencontre des gens, et puis la femme fait des commentaires pour humilier son mari. Cette femme-là travaille à détruire son couple. C'est triste, mais j'ai déjà rencontré une femme qui disait publiquement devant des amis, elle abaissait son mari, puis elle se moquait de lui. Et puis là, elle venait nous dire en privé, « Je ne sais pas pourquoi il n'est pas fin avec moi, mon mari. » Ben moi non plus, je ne sais pas. Ben peut-être parce que tu n'es pas fine, toi non plus. Mais comprenez, sauf que ça, c'est une chose importante qu'on a besoin de réaliser. Donc, l'ordre dans nos familles, ça doit être bâti dans l'amour, mais en même temps, on va avoir un respect. Et surtout, devant les enfants, on veut se respecter mutuellement parce que s'il manque un respect dans la famille au niveau du couple, les enfants vont avoir beaucoup de mal à respecter leurs parents et l'autorité parentale. Donc, ce qu'on va voir ensemble, plein de choses. Mais premièrement, on veut juste établir ça. Remarquez aussi, on a cité Josué 24, verset 15. Josué avait dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Remarquez que c'était Josué qui l'avait dit et pas Josiane. C'était Josué qui l'avait dit et pas Josiane. Parce que Josué est le chef de sa famille. Pareillement, le mari est appelé à être le chef spirituel de sa famille. Si vous dites, « Ouais, mais mon mari, ce n'est pas un chef spirituel. » Attendez, on va y arriver. Je vous donne le rôle biblique, le modèle biblique. Vous me suivez? OK, donc, le mari est le chef spirituel du foyer. Le mari est appelé à protéger sa femme, protéger ses émotions, qu'elle puisse se sentir vraiment aimée. Et l'épouse est appelée à protéger la réputation et l'honneur de son mari. Certainement, comme je vous dis, elle va aimer son mari également. Si vous venez avec moi maintenant dans 1 Pierre 3, verset 7, 1 Pierre 3, verset 7, ça dit « Marie, vivez en montrant de la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime. » Voyez-vous ici, là, il va avoir du respect pour la femme aussi. « Montrez-lui de l'estime. » On parle de sa valeur ici, « car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Dans notre couple, si le mari ne respecte pas sa femme, s'il ne la chérit pas, il va avoir un problème au niveau de sa vie de prière. C'est important à ce niveau-là. Donc, vous me suivez tous, vous êtes tous d'accord avec moi. C'est simplement l'ordre divin pour le couple. Et en même temps, on va voir ce que Dieu nous appelle à faire maintenant lorsqu'on a des enfants. Venez avec moi dans Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. On va parler du climat spirituel dans la famille chrétienne, le climat spirituel du foyer chrétien. Je vais vous lire encore une fois dans Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7, dans la version seconde 21. Ici, on voit un texte vraiment important. Si chaque chrétien pouvait prendre ce texte-là et dire, « Moi, je veux modeler ma famille selon ce verset-là. Vous verrez le succès dans votre famille. » C'est dit, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce qu'on voit ici, tout simplement, c'est que les principes de Dieu, les commandements de Dieu, la vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on doit modeler devant nos enfants. On doit être des modèles dans notre vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas juste le dimanche matin que ça se passe. Dieu nous appelle à vivre la vie chrétienne à la maison, à chaque jour de l'année. Je vais relire le texte, il dit, en parlant des commandements de Dieu, « Tu les répéteras à tes enfants. » Ça veut dire qu'on va avoir une communion spirituelle avec nos enfants. On va enseigner nos enfants comment marcher avec Dieu et comment honorer le Seigneur dans leur vie. Donc, tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi. Donc, à la maison, ça se passe à la maison. On est assis ensemble et puis on va converser. Par exemple, dans notre foyer, ce qu'on fait, on prend une parole, la parole de Dieu, et de ce temps-ci, on est dans Proverbes, dans les Proverbes avec mes filles. Et puis, bon, c'est sûr, je ne prends pas la version Louis II, c'est peut-être trop compliqué pour elles. Mais on va lire dans la Bible « Parole de vie », par exemple, une version très facile. Et puis, Floramé et Félicité sont là avec leur belle Bible. Je leur ai mis des petits onglets sur le bord de leur Bible pour qu'ils puissent sentir comme papa, et puis pour se retrouver. Et puis, ils ont leur surligneur jaune pour mettre en jaune les choses qui les touchent. Et on va lire la parole de Dieu et on va arrêter sur chaque verset et on va décortiquer chaque verset en famille et dire, « Toi, qu'est-ce que ça dit, ce verset-là? Quand on l'étudie, qu'est-ce que ça dit? Comment Dieu te touche là-dedans? » Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et on a une conversation autour de la parole de Dieu, en famille. C'est merveilleux. Et moi, j'aime ça voir les réflexions, entendre les réflexions. Et des fois, mes enfants peuvent me prêcher et dire, c'est ça qu'il faut faire dans notre vie chrétienne pour vivre le succès. Puis là, je dis, ah, tu penses ça? Oui, papa, c'est sûr que c'est écrit. Bien, gloire à Dieu, moi, je suis d'accord avec toi. Sauf que Dieu nous appelle à vivre la vie chrétienne à la maison. Dieu nous appelle à vraiment prendre le temps en famille pour vivre Dieu. Et vous savez, on peut le faire comme ça, dans le salon, on peut s'installer avec la parole de Dieu, mais même quand on mange, une chose qu'on ne devrait jamais faire en tant que famille chrétienne, on ne devrait jamais manger avec la télévision allumée. C'est une chose, moi j'ai été élevé comme ça, et je vais vous dire également, le temps autour de la table, c'est le temps où on va avoir notre réunion familiale à chaque journée. On se retrouve. Les enfants sont partis à l'école toute la journée, mais le soir, on revient autour de la table, on va partager un repas pour échanger sur notre journée, pour écouter aussi les rapports des enfants, comment ils ont trouvé ça difficile peut-être à l'école, ou peut-être comment ils ont trouvé ça le fun. On va entendre les anecdotes de la journée et on va emmener Dieu dans chaque situation. On va voir comment Dieu veut travailler dans les vies
des personnes dans leur vie. Et on a toutes sortes de commentaires, toutes sortes de choses intéressantes. Mais si on a une distraction, la TV qui joue, et on écoute la TV, on n'est pas en train d'entretenir notre foyer d'une façon chrétienne. Amen. Vous pouvez avoir de la musique, hein, si ça ne vous enterre pas. Mais l'idée, c'est d'avoir une communion à chaque jour. Et puis, vous allez bâtir votre famille dans la paix et vous pourrez discuter justement. Sauf que là, ça disait, tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage. Je vous ai déjà expliqué des témoignages, puis je ne me répéterai pas toujours. Mais on est à l'hôtel, sur le bord du lit, avant de partir pour notre journée en voyage, on va prendre du temps dans la parole et prier, chercher Dieu et s'attendre aux surprises de Dieu. Vous vous rappelez plein d'histoires que je vous ai racontées, mais à chaque fois, on est là, merci Seigneur Dieu, parce qu'on est les chouchous du bon Dieu. Aujourd'hui, on s'attend de vivre ta bénédiction dans nos vies, puis on se prépare spirituellement à vivre ce que Dieu veut faire pour nous. Et c'est merveilleux, on prie pour la protection divine, toutes ces choses-là. Donc, quand on est en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, ça veut dire à tous les moments, on se couche le soir, on prie, on passe du temps. Ma femme, elle, c'est une chose qu'elle aime faire aussi avec Floramé, et coucher sur le bord du lit avec Floramé. Et puis là, Floramé va commencer à ouvrir son cœur le soir. Des fois, on est là, autour de la table, on va jaser de plein de choses. Mais des fois, le soir, c'est là où elle commence à vraiment révéler des choses sur son cœur. C'est un bon temps pour connecter avec nos enfants. Et puis nous, on a notre petite routine, ça fait des années. Ma mère a composé des chants pour nos enfants quand ils étaient bébés. Et puis là, Floramé, on a arrêté de faire ça récemment. Mais on passe du temps, on leur chante leur petit cantique et leur berceuse, on chante ce chant-là, on prie avec elles, et puis c'est notre temps avec nos enfants pour les bénir. Donc, c'est une chose que vous pourrez faire également pour entraîner vos enfants dans les voies de Dieu. Même quand on se couche, quand on se réveille, Dieu fait toujours partie. Donc, Dieu nous appelle à vraiment comprendre qu'il est appelé à être le centre de notre famille. Amen. Donc, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est cultiver la présence de Dieu dans notre foyer. La prière avant chaque repas. Une famille chrétienne devrait prier avant chaque repas pour remercier Dieu pour les aliments qu'on va manger. C'est une chose, c'est juste être conscient. Si ce n'était pas pour Dieu, peut-être on n'aurait pas de repas. Peut-être papa n'aurait pas un travail, peut-être maman n'aurait pas de revenus. On est reconnaissant pour chaque repas. Et des fois, quand nos enfants manquent de reconnaissance pour un repas, on leur parle, ben, peut-être tu devrais déménager dans un autre pays où les gens crèvent de faim. Hein? Et des fois, moi, j'ai déjà fait ça un repas. Une de mes filles se plaignait. J'ai dit, parfait, j'ai enlevé son assiette. J'ai donné des biscuits soda et un verre d'eau. Tu ne mourras pas de faim, mais c'est ça ton souper ce soir. C'est là où on peut inculquer des valeurs à nos enfants. L'appréciation, c'est important ça aussi. Donc, cultiver la présence de Dieu dans votre foyer en priant avant chaque repas. La dévotion en famille, vous devriez intégrer ça dans vos vies également. Avoir un temps à chaque semaine, si vous ne pouvez pas le faire chaque jour, mais au moins une fois par semaine, vous retrouver et passer du temps ensemble. Et vous savez, quand on est en auto, on va jaser, on va toujours parler des choses de Dieu parce que Dieu, ce n'est pas la religion du dimanche, c'est notre vie. Amen. Et aussi, comme je vous ai dit au tout début, on devrait avoir comme exemple la valeur pour l'Église locale. Ça devrait être imprégné dans la vie de nos enfants, que c'est sacré, que notre rendez-vous le plus important de la semaine dans notre famille, c'est d'aller louer notre Dieu. C'est d'aller à l'Église et louer notre Dieu. Amen. Bon, là, vous dites, OK, mais comment est-ce qu'on peut faire pour protéger nos enfants? Parce que ce qu'on nous propose en ce moment, ce que tu nous dis, c'est super bien, mais dans le pratique, est-ce qu'on peut vraiment le vivre? Je peux vous dire, absolument, vous pouvez le vivre. Je l'ai vécu dans mon enfance et on le vit aujourd'hui. C'est pas quelque chose des fantaisies inventées d'un scénario intouchable. Non, c'est vraiment possible. Vous pouvez avoir une vie chrétienne dans votre famille. C'est tout à fait possible et c'est biblique. Si Dieu nous donne des choses, des prescriptions à suivre, c'est jamais parce que c'est impossible, mais c'est toujours possible pour nous. Donc, enlevez déjà la notion que c'est impossible pour vous. C'est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne la verras pas. Ça rime. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais vous encourager, restez avec moi encore et continuez à croire que peut-être Dieu est capable de vous surprendre. Amen. Dieu vous appelle également père et aussi les mères, mais comprenez ceci, Dieu vous appelle à protéger vos enfants de cette vie dans la société. Est-ce que ça veut dire couver vos enfants et les empêcher de sortir dehors? Non. Mais il y a plein d'influences dans le monde, des influences qui ne viennent pas du royaume de Dieu. Et Dieu vous appelle à protéger vos petits-enfants des influences dans ce monde, des influences qui viennent du royaume des ténèbres. Par exemple, Dieu nous appelle à protéger nos enfants des films qui peuvent nuire à la vie spirituelle de nos enfants. Les films, la musique, ces choses-là. En même temps, il faut être équilibré. Parce que des fois, quand on veut protéger nos enfants et on empêche nos enfants de vivre, entre guillemets, il va avoir une réaction, l'inverse. Il va avoir l'inverse qui va se créer où les enfants peuvent devenir rebelles et dire, bon, on m'empêche de vivre. Moi, j'ai été élevé et on a posé la question à mes parents, comment vous avez fait pour avoir deux enfants chrétiens? Et ma mère avait répondu dans le temps, mettez pas des péchés où il n'y en a pas. Et c'est un bon conseil. Faut pas inventer des péchés, mais en même temps, faut user de discernement pour protéger nos enfants. Donc, dans notre foyer, on peut avoir des bons films chrétiens, certainement, et des bons films également dans notre monde, OK, qui sont un divertissement pour nos enfants. Des fois, il peut y avoir des personnages dans les films qui sont le monsieur détestable, le mauvais monsieur et les bons personnages. Certainement, il va y avoir dans nos films un bon et un mauvais. Ça fait partie, des fois, de l'aventure d'un film, les cowboys, les indiens, tout ce que vous voulez. Mais on ne devrait pas exposer nos enfants aux films qui célèbrent la sorcellerie. Et je dois vous en parler parce que des fois, on agit d'une certaine façon parce qu'on voit les enfants de l'école, ils aiment tous ce film, Harry Potter, par exemple. Il y en a des enfants qui aiment Harry Potter et c'est la célébration de la sorcellerie. Et en fait, c'est vraiment rusé parce qu'on prend les enfants dans leur jeunesse pour leur enseigner comment admirer, comment apprécier le monde spirituel, mais dans le royaume des ténèbres. C'est très, très, très important. On ne veut jamais exposer nos enfants aux choses comme les loups-garous, les vampires. C'est une grande mode de ce temps-ci. Les enfants portent des chandails, des vêtements avec des têtes de squelettes. Toute la dimension de la mort, des fois, les gens disent « Ah, c'est juste un film ». Comprenez ceci, quand vos enfants sont devant la télévision et puis ils voient un film de vampire, des films de sorcellerie, toutes ces choses-là qui glorifient le royaume des ténèbres, il y a une grande porte qui s'ouvre dans votre demeure pour que des esprits méchants entrent dans votre demeure et viennent créer des problèmes chez vous. Un esprit de rébellion, la dépression aussi. Ça peut ouvrir une porte au royaume des ténèbres qui s'infiltre dans votre maison parce que vous y avez donné un accès légal. Vous êtes des enfants de Dieu, mais si vous n'avez pas usé de discernement pour protéger vos petits-enfants, protéger votre famille, vous ouvrez la porte tout grande, bien, vous allez vivre de l'oppression spirituelle dans vos familles et vos enfants peuvent également être rebelles et vivre toutes sortes de choses et s'ouvrir aussi ou avoir un intérêt pour le monde occulte. Ce que je vous dis, peut-être, vous dites, bien là, c'est évident, mais je peux vous dire, en même temps, c'est nécessaire que je vous en parle aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut faire, je vais vous inviter à venir avec moi dans Deutéronome 18. On va voir, est-ce que c'est juste le pasteur qui est légaliste, qui est en train de nous dire, ben là, faut pas vivre, ou est-ce que c'est vraiment biblique? Dans Deutéronome 18, versets 10 à 14, je vais vous lire encore une fois dans Second 21. Ici, c'était la parole de Dieu au peuple de Dieu qui disait qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Évidemment, on ne croit plus de nos jours, les gens ne parlent plus de sacrifice, sauf que dans le monde satanique, oui, là, mais en général, au Québec, ce n'est pas le grand problème. Écoutez bien, mais personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, ici on parle d'horoscope, d'augure ou les diseurs de bonne aventure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts, en effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Écoutez au verset 13, « Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. » Si on veut avoir notre vie, notre famille fondée sur le rocher, on doit être tout entier à Dieu. Ça veut dire qu'on va enlever toutes les choses dans notre foyer qui peut ouvrir une porte au monde des ténèbres. Si vous avez des films, la musique païenne, vous allez dire, ben, est-ce qu'on est obligé d'écouter juste la musique chrétienne? Non. Moi, j'ai été élevé, puis ma mère écoutait du Nana Mouskouri. OK? Vous connaissez Nana Mouskouri? Bon. Et ma mère jure qu'au ciel, on va entendre la voix de Nana Mouskouri. Parce que pour elle, c'est céleste. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est 100% toujours de la musique chrétienne, juste ça. Mais vous voulez avoir un environnement dans votre famille où c'est vraiment la priorité. C'est vraiment ça qui est plus évident. Chez nous, on n'a pratiquement pas de musique du monde. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on a dit « tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas ». C'est parce qu'on veut entretenir notre famille dans l'onction de Dieu. On veut avoir la présence de Dieu dans notre famille. C'est-à-dire que si on a de la louange, l'adoration, on va vivre la présence de Dieu. Si on met Nana Mouskouri, admettons, une chanson au soleil, soleil, bon, c'est pas satanique, il n'y a pas de problème. Comprenez, il faut être équilibré. Mais si on a de la musique heavy metal et des paroles sataniques dans nos familles, on va se poser la question peut-être, mais pourquoi ça va mal chez nous? Mais c'est parce qu'on ouvre des portes au royaume des ténèbres. Amen. Donc, on veut protéger, et non seulement juste protéger, mais en même temps, on veut avoir dans nos foyers, on veut entretenir vraiment la présence de Dieu. Et c'est possible pour vous, c'est possible pour nous. Amen. Donc, ici, ce qu'on veut voir, ça nous dit, tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Ou dans la parole de vie, ça dit, mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, votre Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Est-ce que c'est le pasteur qui vous dit? Ça dit, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez bâtir votre famille sur le rocher, vous voulez vraiment marcher dans les voies de Dieu, dans votre famille, dans votre maison, vous ne devriez pas avoir de films qui célèbrent la sorcellerie. Aujourd'hui, en arrivant à la maison, si vous avez des films comme ça, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec? J'ai dépensé plein d'argent. Bien, vous mettez le poison dans la poubelle. Ça, vous faites, le ménage chez vous. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est un film qui prône la sorcellerie, qui parle de magie, ces choses-là. Ça vient du royaume des ténèbres. Dieu dit, je ne le permets pas. Donc, on prend un gros sac de poubelle vert ou noir, là, puis on remplit ça. Puis on remplit, et là, après, on fait le ménage spirituel de notre demeure. On se repent devant Dieu, puis on dit, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai ouvert des portes spirituelles dans ma famille. J'étais ignorant peut-être, je savais pas, mais aujourd'hui, je viens de l'apprendre. Je veux vraiment faire le ménage spirituel, et au nom de Jésus, premièrement, je me repens d'avoir exposé mes enfants à de telles choses dangereuses qui ont créé des problèmes dans mon foyer. Au nom de Jésus, je me repens, et je déclare, au nom de Jésus, qu'un nettoyage qui se fait dans ma famille. Cette maison, elle est consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus aux quatre coins de cette maison. Nous disons que cette place est l'habitation du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient dans cette maison. Nous sommes protégés, nous sommes des enfants de Dieu dans l'alliance du Seigneur. Et au nom de Jésus, on va vivre la paix, on va vivre la provision de Dieu chez nous parce que j'ai décidé, Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. Amen. Donc, il faut être radical. Si vous dites, ben mes enfants aiment ces films-là ou mes enfants n'aiment pas ma musique chrétienne, et ça se peut, mes enfants n'aiment pas nécessairement ma musique, on va aller à la librairie chrétienne et je vais leur laisser choisir de la bonne musique ou aller sur Internet et faites-leur écouter de la musique chrétienne de jeunes. Puis là, ils vont dire, ah, ça, c'est cool. Bon, c'est cool. Eux autres, ils aiment ça. Ben on va acheter leur CD au lieu d'acheter des CD avec des paroles horribles dessus et des personnes qui suivent vraiment le diable et qui ont un exemple, qui sont un modèle de perversion dans notre monde. Amen. On doit protéger nos enfants. Gloire à Dieu. Et ce que Dieu dit est défendu, il dit « je ne le permets pas », on devrait dire « Amen, Seigneur. Amen. » Il y a des gens, des fois, qui vont m'entendre, vont dire, ils vont réagir de toutes sortes de façons. Ce que je vous dis, c'est ce que Dieu vous dit. Vous êtes libre. Si vous voulez vivre des défis, allez-y. Mais si vous voulez vivre la bénédiction, je vous donne ce que Dieu vous dit de faire. Et vous allez le vivre. Amen. Dieu nous dit également, donc on va protéger nos enfants et on va instruire nos enfants dans la justice. Comprenez bien votre rôle d'instructeur. Vous êtes les instructeurs dans votre famille. Et venez avec moi dans Éphésiens 6, versets 1 à 4. On va le voir bibliquement. Les parents, vous êtes les responsables. Vous devez instruire vos enfants dans les voies de Dieu. Il y a une mode dans notre monde aujourd'hui qui dit, bien, vous savez, on va laisser nos enfants décider pour eux-mêmes. Quand ils auront 18 ans, ils pourront décider la religion, entre guillemets, qu'ils veulent. Dieu nous dit aucunement qu'on devrait laisser nos enfants sans enseignement, mais au contraire, Dieu nous dit qu'on doit enseigner les principes de Dieu à nos enfants dans leur jeunesse. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Le Seigneur agit toujours selon sa parole, il agit avec nous, il nous donne toujours un choix. Dieu n'a pas créé des robots, n'est-ce pas? On n'est pas des robots. Ici, dans ce texte, il dit « élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, dans les voies de Dieu et comme Dieu, lui, il nous enseigne. » Vous savez, l'être humain a toujours le choix entre le bon et le mauvais. Dieu nous appelle à instruire nos enfants, il ne nous appelle pas à les contrôler. Comprenez bien ceci, c'est très important. Dieu ne vous appelle pas à contrôler vos enfants, Dieu vous appelle à les instruire. Ceci veut dire, la façon qu'on peut traduire ça, Dieu vous appelle à influencer vos enfants dans la bonne direction. Bon, je vous donne une façon de comprendre, une illustration. J'ai entendu ce témoignage-là, puis j'ai trouvé ça formidable. Il y avait un adolescent, là c'est plus vieux dans la vie, on veut instruire nos enfants avant qu'ils se rendent à ce point-là dans l'adolescence, mais ceci dit, le père a compris beaucoup plus tard dans la vie qu'il avait manqué des choses, il avait toujours voulu contrôler ses enfants, ça ne fonctionnait pas. Et puis là, Dieu a montré une chose. Bon, Dieu avait montré, il dit, toi, ce que tu essaies de faire avec ton enfant, tu veux le contrôler, il réagit, il n'est pas enseignable, il est rebelle. Il dit, moi, je ne suis pas comme ça avec toi. Moi, je ne suis pas là pour te contrôler, je suis là pour te diriger. Et là, le père, ce qu'il a fait, écoutez bien ceci, là, son fils arrive à la maison, c'est un adolescent, il arrive tard, et puis il a pris de l'alcool, il avait fumé, tout ça, il monte en haut des escaliers, il s'en va dans la chambre, il ferme la porte, et puis là, il met sa musique rock super forte, là, puis là, c'est vraiment horrible. Là, le père monte en haut des escaliers, il frappe sur la porte, et puis là, il veut rentrer, il veut que son fils baisse la musique, le fils augmente la musique, et puis là, c'est encore pire. Et là, le père, il se met à crier après son enfant, blablabla. Et puis finalement, c'est alors que Dieu a montré, t'agis pas d'une bonne façon. Sauf que là, il s'est repenti devant Dieu et dit, Seigneur, je veux pas te désobéir, je veux pas contrôler mon enfant, je veux répondre à ton appel et l'influencer dans la bonne façon, dans les bons chemins. Donc, lendemain matin, le fils descend les escaliers, s'attendant que son père était pour le gronder. Et puis le père est là, son fils descend les escaliers et dit, bonjour, t'as fait un beau sommeil, t'as bien dormi? Oui. Là, le fils s'attendait, écoute, il va me crier après, là, j'ai été super impoli. Puis il dit, ah, ben bonne journée. Puis après, le fils s'en va. Et puis là, le père rencontre son enfant après l'école. Il dit, écoute, je veux qu'on se parle. Et puis là, le fils est là. Le père lui dit, écoute, il dit, là, je vais te demander pardon. Je vais te demander pardon parce que toute ta vie, j'ai essayé de te contrôler et Dieu m'a montré que ce n'était pas la façon que je devais agir. Je vais te demander pardon. Est-ce que tu me pardonnes? Et là, le fils, c'est comme, oui. Il dit, là, je veux faire comme Dieu fait. Il nous donne des choix dans la vie. Là, ce que je veux te dire, la prochaine fois, quand je viens frapper à ta porte et je te demande d'ouvrir la porte, je veux que tu m'ouvres la porte. Sinon, il va y avoir des conséquences et tu vas devoir vivre avec. Donc, est-ce qu'on s'entend là-dessus? Le fils dit, OK, pas de problème. Il arrive de l'école, même situation, il arrive, fumé, tous les temps, il arrive, il monte les escaliers, il ferme la porte, il met sa musique à plein tête. Et puis là, le père arrive, il frappe sur la porte. Et puis là, il dit, j'aimerais ça qu'on se parle, ouvre la porte. Le fils n'ouvre pas la porte. Ah! Le lendemain matin, même scénario. Bonne journée, mon fils. Le fils, c'est comme, il ne crie pas après encore, qu'est-ce qui se passe avec mon père? Le fils s'en va à l'école. Il revient de l'école. Et puis, finalement, il monte dans sa chambre, mais il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte devant sa chambre. Il y a un beau petit rideau. Là, le fils descend les escaliers. « Hey, qu'est-ce que tu as fait là? T'as enlevé ma porte! » Et il dit, « Ben, on s'est entendu. On avait dit qu'il y avait des conséquences. Donc, toi, tu dois apprendre que dans la vie, on a des choix. On peut choisir le bien ou choisir le mal. On s'est entendu que tu étais pour m'obéir. Puis si tu ne m'obéissais pas, il était pour avoir des conséquences. » Là, tu as perdu le privilège d'avoir une porte devant ta chambre pendant 2 semaines. Et le garçon s'est corrigé. Il a appris comment ça fonctionnait. Donc, Dieu nous appelle à instruire nos enfants, leur donner des choix et leur faire perdre des privilèges. Si les enfants sont désobéissants, on leur donne des choix. Et je peux vous dire, les enfants apprennent assez rapidement. Ma petite Floramé, j'ai déjà enlevé son iPod. Oh, wow, quel parent atrocement méchant, je le sais. Mais vous savez, vous pouvez enlever des privilèges. Et les enfants qui aiment leurs choses, les privilèges, vous connaissez vos enfants mieux que moi, mais vous savez, les choses qu'ils vont apprécier, c'est à nous, les parents, de faire en sorte que nos enfants marchent dans l'obéissance, qu'ils marchent selon Dieu. Donc, on leur donne des choix. Et même, j'ai déjà fait ça avec mes enfants. J'ai dit, bon, écoute, j'ai dit, tu as désobéi. J'aimerais ça que tu me proposes des conséquences. Puis là, c'est comme, ah ouais, oui. Puis là, on a une discussion. Ça, qu'est-ce que tu penses, ça mérite? En passant, on ne devrait jamais crier après nos enfants. On ne crie pas après nos enfants. Pourquoi qu'on ne crie pas? Parce qu'on n'a pas besoin de plus de volume, parce qu'on a autant d'autorité si on parle doucement ou très fort. Moi, je n'ai pas beaucoup de voix en partant. Je prenais des cours de chant, puis mon prof ne comprenait pas, mais je n'arrivais pas à parler fort, je n'ai pas de voix. C'est pour ça que j'ai un bon micro. mais je ne crie pas chez nous. Vous pourrez demander, même ma femme, on a eu des temps où on a eu un désaccord, puis elle dit, arrête de me crier après. Je dis, bien, je ne te crie pas après, mais tu sais ce que je veux dire. Parce que je ne crie pas. Je n'ai pas de voix pour crier. Peut-être j'en avais, je serais un gros méchant, mais on ne devrait pas crier dans nos maisons parce qu'on est l'autorité. On est l'autorité. Et vous savez, Dieu vous appelle à avoir assez d'autorité que quand vous parlez, les enfants comprennent et les enfants écoutent. Si les enfants ne comprennent pas, s'ils n'écoutent pas, Dieu, aujourd'hui, veut faire un changement à ce niveau-là. Chez nous, mes enfants, j'ai juste à regarder mes enfants. Je vais dire, OK, tu es en train de me dire que tu n'écoutes pas ce que je te dis. Ils me regardent. Je regarde leurs yeux. C'est ça ta décision, que tu vas me désobéir? Non. OK, parfait, c'est ça que je pensais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que papa, il a un pouvoir sur leur vie. J'ai un pouvoir sur leur vie et je suis capable d'enlever des privilèges. Oui. Un mois sans iPod, peut-être. Amen. Donc, Dieu vous appelle à prier puis connaître vos enfants. Dieu vous appelle à connaître et avoir des stratégies pour les diriger dans la bonne direction. Moi, j'ai eu des défis avec ma plus jeune. Au début, elle avait peut-être 3-4 ans. Des fois, Félicité, elle avait une réaction. Puis moi, je ne savais pas trop comment intervenir. Puis avant, je pouvais dire, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis Dieu m'a donné une inspiration une fois. J'ai dit, Seigneur, montre-moi comment je dois intervenir dans cette situation-là. Parce que là, elle semblait être rebelle, elle ne m'écoutait pas. Puis là, Seigneur m'a dit, tu dois y faire une caresse. Tout simplement. Puis elle est en train de faire une crise. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, vous êtes tous tellement bénis. Là. Elle faisait une crise à ce moment-là. Puis Dieu m'a dit, tu dois la rassurer que papa l'aime et que papa va la consoler. Puis je suis allé la prendre dans mes bras, puis là, elle a arrêté de faire sa crise. Puis je suis là, oh, ça marche. Gloire à Dieu. Mais Dieu a des stratégies pour vous aider à être le parent que Dieu vous appelle à être. Priez. Peut-être que vous dites, ben là, je suis dépassé. Allez vous acheter des livres, peut-être, si vous avez des défis avec vos enfants. Peut-être qu'il y a des bons conseils aussi que vous pouvez recevoir. Mais ceci dit, comprenez que vous avez le mandat d'instruire vos enfants dans les voies de Dieu. Dans Proverbes 22, verset 6, ça dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, vous établissez la loi. Si eux, s'ils vont à l'encontre, bien, vous devez vous assurer que les conséquences que vous avez établies, qu'ils vont être respectées. Vous devez respecter vos propres décisions. Amen. Si vous dites, « Ah, je vais vous dire une des façons que j'ai puni ma petite Félicité une fois, puis Floramé aussi, j'ai puni des fois. » Mais pour elle, une chose super importante, c'était le spaghetti-ton. Hein? Comment ça s'appelle? Un repas de spaghetti. C'était la fête de l'année. Là. Pour elle, c'était important. Puis j'avais dit, si tu continues en tel chemin, on va annuler cette sortie-là. Puis, c'est comme annuler Noël pour elle. C'était comme impossible. J'ai dit, je te le répète, dernier avertissement, on va annuler cette chose-là. Et puis, j'ai respecté ce que j'ai dit parce qu'elle a continué. Elle a désobéi. Puis là, c'était la fin du monde. Oui, c'était la fin du monde. Mais elle a appris à comprendre que quand papa dit une chose, c'est ça qui est ça. Si je ne fais pas ce que j'ai dit, mes enfants ne me respecteront pas. Dieu vous appelle à être respecté dans vos familles. Amen. Là, vous dites, oui, mais dans ma situation, qu'est-ce qui se passe si, bon, tu as parlé, tes enfants, écoute, ils ont un cœur pour Dieu, mais si dans notre famille, ce n'est pas le cas, comment ça se passe? Premièrement, on veut être sensible. Si on a des amis sur Internet, vous dites, nous, on va dans une église, il n'y a pas de ministère pour les enfants. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas-là? On devrait être sensible aux besoins spirituels de nos enfants. Amen. On devrait être sensible. Et si on est dans une église où il n'y a pas de ministère pour les enfants, on devrait être conscient que c'est important que nos enfants doivent être élevés dans les voies de Dieu. C'est super important. Une des choses qu'on a vécu ici, au tout début, on a vraiment prié que Dieu touche le ministère des enfants, parce que pour nous, c'était super important. Et on a vu la main de Dieu, où Dieu a vraiment envoyé des moniteurs. On a vraiment beaucoup de moniteurs. J'ai jamais vu, dans toute ma vie chrétienne, j'ai jamais vu une église avec autant de moniteurs d'école du dimanche. Des gens investis. Et en plus, un curriculum pour enseigner nos enfants à vivre selon la foi. Quand il y a des activités, même en après-midi pour les parents, il y a des activités également pour les enfants. Donc, c'est important d'être dans une église où les enfants sont nourris spirituellement. Mais malgré ce bon ministère, peut-être aujourd'hui, vous vous retrouvez devant une situation où les enfants disent, « Moi, je ne veux pas aller à l'église. » Ça se peut aussi que c'est possible, ça. Donc, ce qu'on veut faire, on doit comprendre. Ici, là, on veut s'arrêter. Si on vit ce dilemme-là, admettons, on va dans une église, on est béni. Le ministère des enfants est phénoménal. Il y a des gens qui transfèrent d'église ici parce que le ministère des enfants est célébré puis ils sont bénis. Mais si dans notre cas, si c'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait? La prochaine fois, quand vous ferez votre dévotion en famille, c'est important d'aller vérifier si vos enfants ont vraiment compris le message du salut. Il faut voir avec eux et échanger et comprendre est-ce qu'ils ont vraiment reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Parce que si on a reçu le Seigneur Jésus, ça va changer toutes les autres choses. Amen. Donc, on veut prendre le temps. Des fois, les gens vont dire, ah, ben là, parler des enfants, est-ce que c'est vraiment important? Là, il y a plein de gens que, pour plein de raisons, est-ce que c'est important aujourd'hui, ce qu'on dit là? C'est super important. Parler de nos enfants, là. Des fois, les gens disent, ben, j'ai vu ça des fois des églises où on dit, ben là, les enfants, mettez-les dans une classe, donnez-leur des crayons à colorier, puis ils vont s'amuser. Mais Dieu ne nous appelle pas à leur donner des crayons. Dieu nous appelle à instruire nos enfants dans les voies de Dieu. C'est pour ça qu'on a aussi un budget ici à EVQ où on prend soin de nos enfants, où c'est vraiment important. Ce n'est pas une chose à côté, c'est vraiment important. Bon, sauf que devant ce fait-là, si mes enfants disent « Moi, je n'aime pas Dieu, j'aime, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça », il faut prendre le temps et avoir un cœur à cœur et aller vérifier le salut de vos enfants pour voir dans vos temps, la dernière fois que vous avez eu votre dévotion en famille, comment ça s'est passé? Est-ce que vos enfants ont prié? Est-ce que vos enfants ont chanté? Est-ce que vos enfants ont vraiment partagé leur cœur? Si vous dites, je ne l'ai pas vu ça, bien là, c'est le temps de prier pour vos enfants, pour qu'ils puissent vraiment naître de nouveau. Moi, je sais mon petit neveu, ben, en fait, mes deux petits neveux qui habitent à Saint-Bruno, sont venus des fois dans les réunions d'après-midi. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. J'ai parlé avec mon plus vieux neveu, Emmanuel. J'ai dit, raconte-moi un petit peu comment tu as vécu ça à l'Académie de la foi. Puis il pleurait. Il était là, il était tellement ému. Il dit, j'avais jamais senti la présence de Dieu comme ça. Mais vous savez, ce qu'on veut faire, c'est prier pour nos enfants pour qu'ils vivent une expérience avec Dieu. Pour pas que ce soit la religion de leurs parents ou l'église de leurs parents. Si on peut les prendre quand ils sont jeunes et dire, moi, là, je veux prier que mon enfant vive quelque chose avec Dieu, on prend ça vraiment au sérieux. Dieu va se manifester. Et une des choses, une des clés super importantes que j'ai vécues dans ma vie, qui m'a vraiment aidé, c'est que mes parents ont toujours été à l'écoute de ce que j'avais à dire. Ils valorisaient mon opinion. On était autour de la table et puis on parlait des problèmes de l'Église. Vous avez dit, des fois, on est là, on dit, ben, on ne peut pas parler devant les enfants, mais les enfants voient des choses aussi, savez-vous ça? Et les enfants sont là, sont conscients. Puis si on parle des problèmes, mais pas nécessairement pour qu'ils soient comme enterrés par des problèmes, là. Quand même, on comprend ce que je veux dire, mais on parlait des points forts, puis des choses qu'on appréciait, puis, ou des choses aussi, OK, bien, il y a ça, on doit prier pour telle affaire. Et là, toi, qu'est-ce que tu en penses? J'avais 12 ans, j'enseignais l'école du dimanche à 12 ans. Mais avant ça, j'ai eu un petit parcours où, des fois, je pouvais parler avec mes parents, puis dire, bien, ça, je trouve ça pas d'allure, pourquoi qu'on fait ça de même? Puis là où, c'était pas d'entraîner la critique, c'est pas ça que je suis en train de le dire, mais c'est d'avoir une place où on peut parler et s'ouvrir le cœur, puis dire, mais moi, pourquoi telle doctrine? Moi, je me souviens, j'avais posé la question, mais comment ça, l'enlèvement de l'Église, ça se passe comme ça? Puis j'avais des interrogations spirituelles. Mais savez-vous pourquoi j'ai pu parler comme ça? Parce que quand je parlais, mes parents ne riaient pas de moi. Ils n'étaient pas là pour dire, ben là, t'es juste un enfant, t'as rien à dire. Non, j'étais reçu et valorisé. Ce que je disais, ça comptait pour quelque chose. C'est-à-dire que c'est pour ça, si nos enfants parlent, savez-vous, le Saint-Esprit habite nos enfants. S'ils sont devenus des enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite nos enfants. Est-ce que ça se peut que Dieu va parler à travers vos enfants pour vous bénir dans votre vie? Floramie, elle avait 4 ans. C'est ça, quand elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle avait 4 ans, hein, c'est ça? Et puis, on était là devant la télévision, c'était Azusa Street, le centenaire. Et puis, Floramie, elle arrive dans le salon et le prédicateur, il dit, maintenant, je vais prier pour ceux qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Puis là, moi, je suis assis sur mon banc, Floramie arrive, elle lève les mains comme ça, et là, il dit, maintenant, sois baptisé du Saint-Esprit. Elle se met à parler en langue comme ça, à sa place, à 4 ans, là. Là, après, ma femme rentre dans le salon parce qu'elle est émue. Ma femme pleure. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu touche ma fille. Là, ma femme est assise là. Là, Floramie, elle met ses mains, elle impose les mains à ma femme. Elle dit, et toi, maman, tu vas prêcher l'Évangile. Et tu vas prêcher en français. Puis elle se met à prophétiser sur ma femme. À 4 ans, c'est possible pour nos enfants. Mais si on dit, ben là, c'est des enfants, puis donne-leur un crayon puis un stylo, puis regarde qu'ils s'en aillent dans une petite salle. Non, non, non. Dieu, le Saint-Esprit, va habiter nos enfants. Il va, c'est écrit dans la parole, dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il faut prendre le temps avec eux. Écoutez, pourquoi que tu n'aimes pas ci? Pourquoi tu n'aimes pas ça? OK, est-ce qu'on va aller, dans le fond, on va avoir une conversation et valoriser leur opinion. Amen. Ceci dit, ils ne deviendront jamais le chef spirituel chez vous. Sauf que c'est à eux de suivre votre leadership. Amen. Et vous imposez. On ne contrôle pas dans les décisions. Admettons, s'ils veulent désobéir, parfait, il y a des conséquences. Mais ce n'est pas à eux de décider votre vie spirituelle. C'est à vous. Chez nous, on est des enfants de Dieu. Je me souviens, John Dewart avait dit, sa fille est adolescente et puis elle a toujours été élevée chrétiennement, elle servait toujours le Seigneur, mais il y a eu, je pense, une ou deux semaines. Une semaine? Un mois où elle a vécu une petite rébellion, Elissa. Elle ne sait pas que je parle d'elle le matin, là, mais Elissa, pendant un temps, elle s'est dit, ben là, ce que je vais faire, moi, je vais écouter la musique du monde. C'est du Bon Jovi. Vous connaissez ça, John Bon Jovi? Puis là, la mère, elle voit la cassette dans le temps, dans l'ancien temps, dans mon temps, là, ça existait, les cassettes, là. Puis là, la mère, elle voit ça, que la petite fille écoute du Bon Jovi, puis je pense que c'est ça, hein? Je ne me souviens plus, en tout cas. Une musique, ça ne veut pas dire que c'est démoniaque, celle-là, je ne sais pas, quelque chose de heavy metal pas bon. Sauf que là, elle arrive, je ne connais pas trop, mais sauf que moi, j'écoutais du Jimmy Swaggart, j'avais 12 ans, sauf que je ne connais pas trop la musique. Mais, écoutez bien, sauf que là, elle voit sa fille avec cette musique-là. Puis là, elle, John Dewart, elle arrive avec un marteau. Puis elle dit, là, tu vas me casser cette cassette-là. La petite fille de main. Elle dit, je permettrai pas au diable de t'avoir. Satan will not have you. Puis là, la petite fille comme... C'était la fin, puis ça a été la fin de la rébellion. Pendant un mois, ça a duré un mois, mais la mère a pris la décision, et ici, on va servir Dieu, puis cette musique-là ne rentrera pas chez nous. OK. Donc, gloire à Dieu. Sauf que là, on veut, quand on fait notre dévotion, on veut aller vérifier l'état spirituel. On veut échanger avec nos enfants, écouter et valoriser leurs commentaires, leurs opinions, tout ça. On veut prier pour comprendre nos enfants, pour vraiment que Dieu nous montre des choses sur eux, pour les aider, et aussi avoir les stratégies de Dieu pour savoir comment exercer la discipline selon Dieu. On se rappelle, on est responsable à élever nos enfants chrétiennement. Nous sommes responsables, nous sommes l'autorité. Ils doivent nous suivre, ils doivent nous obéir. Et en même temps, c'est nous déterminons le climat spirituel de notre foyer. Dans notre foyer, si c'est la guerre, si c'est un climat de chicane, c'est à nous de changer ça. Et j'ai déjà vécu ça dans notre famille. Nos deux petites filles se chicanent, puis je dis, au nom de Jésus, ça l'arrête, ça. Vous pouvez le faire, au nom de Jésus. C'est pas comme ça se passe chez nous. On est dans la paix ici, dans cette maison. Amen, est-ce que ça se peut, ça? Oui, on détermine, c'est nous l'autorité. On est l'autorité. S'il y a des choses qui vont tout croche, c'est pas aux enfants de le corriger, c'est à nous de corriger ces choses-là. Amen. Et là, je vais vous donner la preuve biblique. Hébreux 12. Venez avec moi dans Hébreux 12, versets 7 à 11. Vous êtes encore avec moi, vous ne dormez pas, là? C'est des choses qu'on a besoin d'entendre. Sur la famille, c'est important. Dieu veut que nos familles soient bénies, qu'on puisse marcher dans l'amour, marcher dans la paix, dans la joie. Hébreux 12, versets 7 à 11. Ça dit, c'est pour être corrigé, la parole de vie, c'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Des fois, on se dit, je ne peux pas corriger mes enfants, ils vont penser que je ne les aime pas. Non, le Père nous corrige parce qu'il nous aime. S'il ne nous aime pas, il nous laissera aller tout croche. Mais Dieu nous aime. Ça dit, quel est le fils que son Père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas, comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes, vous n'êtes pas de vrais fils. Comprenez-vous? Si vous aimez vos enfants, vous allez les corriger. Les corriger avec amour, c'est sûr, mais pour vous assurer qu'il va y avoir un changement de comportement. Nous avons eu des pères sur cette terre, ils nous ont corrigés et nous les respectons. Voyez-vous, si on ne corrige pas nos enfants, ils ne respecteront pas notre autorité. Alors c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu, notre Père, pour avoir la vie. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leur désir à eux, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. On devrait être comme Dieu, vraiment pour le bien de nos enfants. Il veut nous rendre saints comme lui. Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Elle donne de la tristesse. Mais plus tard, dites plus tard. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. Donc, un saint climat spirituel va inspirer l'obéissance aussi. Si vous avez un climat spirituel dans votre maison, ça va inspirer la confiance. Savez-vous pourquoi? Moi, une des choses, ma mère, je me souviens, et mon père me disaient, « Toi, là, tu n'es pas du tout influençable. » Ils m'ont dit ça. « Toi, tu n'es pas influençable. Tu ne vas jamais suivre la mode des gens. Tu ne feras jamais comme les autres. Tu ne vas jamais fumer. Tu ne vas jamais prendre de drogue. Jamais ces affaires-là. » Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Toi, tu ne seras jamais influencé. Mais tu vas influencer les gens. Tu vas être un leader. C'est ça qu'ils me disaient, mes parents. Sauf que là, on est petit, quelqu'un nous offre de la drogue. Il y a eu des personnes qui m'ont offert de la drogue à l'école. Ça ne m'intéresse pas parce que moi, je ne suis pas influençable. Je ne serai jamais influençable. Je ne serai jamais influencé. Je vais influencer. Voyez-vous, j'ai cru. Donc, vous voulez parler à vos enfants, les bénir avec vos paroles et qu'ils puissent savoir. Et là, savez-vous, une des raisons pourquoi l'enfant va obéir, parce qu'il ne veut pas décevoir. Mes parents ont tellement une attente grande sur ma vie. Si je fais le contraire, je vais les décevoir. Donc, vous voulez bâtir vos enfants avec vos attentes. Vous savez, si vous dites, ben, dans notre famille, moi, j'ai toujours dit, ben, t'es pas comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça, puis je leur ai dit que je m'attendais pas à grand-chose. Savez-vous ce que vous devriez faire aujourd'hui? Vous prenez un rendez-vous avec vos enfants et vous dites, c'est une réunion officielle révolutionnaire aujourd'hui même. Chez nous, quand on fait ça, ça se passe dans mon bureau du pasteur, deux places, là, puis là, c'est officiel, on se rend compte. Puis là, vous pouvez dire, on se repent pour telle chose, peu importe l'affaire. Là, papa et maman, on a pris la décision que dans notre foyer, ça va changer. Je déclare sur ta vie ceci. Ce que vous voulez voir dans leur vie, vous commencez à déclarer au nom de Jésus que c'est comme ça. Et je m'attends que tu vas être comme ça. Et vous savez, vos enfants, là, vous les regardez dans les yeux, c'est ça que tu deviens au nom de Jésus. Toutes les paroles que j'ai prononcées sur toi, je te demande pardon. Si vous avez dit des paroles qui étaient contraires à la parole de Dieu, mais tu deviens un leader, obéissant, tu deviens comme ci, comme ça. Toutes les choses que vous voulez voir, bénissez vos enfants. Et là, vous dites, moi, je m'attends que tu rentres là-dedans. Et là, si vos enfants, du jour au lendemain, se disent, continuez à croire Dieu, continuez à croire Dieu, et vous verrez la gloire de Dieu dans vos familles. Dieu, là, veut vous donner, il vous équipe avec ce que vous avez besoin. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez les stratégies de Dieu pour vivre une vie chrétienne, familiale, heureuse. Donc, un saint climat inspirera l'obéissance de vos enfants. Ils ne voudront pas vous décevoir. Annoncez aujourd'hui même la révolution et soyez déterminés que vous serez respectés chez vous. Amen. Vous avez encore 5 minutes? Mais là, vous dites, j'entends une épouse qui dit, « Mais mon mari, ce n'est pas un leader spirituel. » Au début, c'était ça, là, le pasteur, tu l'as dit. Là. Regarde l'ordre divin, mais chez nous, ce n'est pas le même, c'est moi là, qui porte les culottes. J'ai déjà entendu ça. OK. Je vous explique un phénomène au Québec. Au Québec, on a élevé une femme, la Vierge Marie, qui était la médiatrice entre Dieu et les hommes. Pourtant, la Bible dit que c'est Jésus le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais au Québec, c'était une femme, Marie. Et spirituellement, ça a eu un impact dans nos familles, où la femme est devenue le chef spirituel de la famille. C'est une chose qu'on a vue. Et dans le monde anglophone, c'est moins pire, parce que dans le monde anglophone, c'est protestant. Mais chez les Québécois, même le mot « fatherhood » en anglais n'est pas traduit en français. On peut dire « paternité », mais ce n'est pas la même chose. On n'a même pas de mot dans le langage francophone qui parle vraiment du rôle du père. Bon, sauf que là, on sait qu'il y a eu... on doit comprendre le contexte historique là, qui a fait en sorte qu'il y a eu des rôles inversés au Québec. Aussi, on voit qu'il y a la Vierge Marie, cette histoire-là que je viens de vous expliquer. Mais en même temps, il y a eu des hommes qui étaient violents. Okay? Par exemple, le père était violent. Si le père était violent, le fils va avoir deux réactions possibles. C'est soit qu'il va être violent comme son père, il va reproduire ce qu'il a vu, ou il va aller à l'autre extrême et puis il va totalement s'effacer de son rôle de père et d'homme. Parce qu'il ne veut tellement pas être comme son père, donc il va laisser sa femme être le leader spirituel. On doit comprendre comme ça, c'est que si, admettons, votre mari, madame, si votre mari vous dit, il n'y a pas d'autorité, peut-être son père, c'est un homme violent, et heureusement, lui n'est pas violent envers vous, gloire à Dieu, mais l'autre côté négatif, c'est que peut-être il n'est pas à sa place en tant que leader spirituel. Donc, votre rôle, c'est de comprendre peut-être la raison pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Si vous comprenez, maintenant, c'est à vous de lui laisser sa place. S'il veut prendre sa place spirituelle dans le foyer, vous devez croire en lui et lui donner sa place. Ça veut dire que vous allez arrêter d'être la germaine qui gère tout. Amen! Vous avez besoin de dire, mon mari, j'ai compris des choses. Prie ensemble, aimez-vous. J'ai compris des choses, mais j'ai pris ta place. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Je te laisse être le leader spirituel. Puis s'il se trompe, madame, là, laissez-le se tromper sans célébrer ça et lui manquer de respect. Amen! Au lieu de prendre le téléphone, mon mari a fait ça, il a lu un passage dans la Bible, c'est à tout croche. Ah, il n'est pas comme spirituel. Regardez, Vous voulez donner une chance à votre mari. Donnez-lui l'opportunité d'être l'homme de Dieu dans votre foyer. Et madame, je peux vous dire que vous allez être heureuse au bout. Quand vous allez laisser faire puis vraiment prendre son rôle de leader spirituel, vous allez vous réjouir parce que ça va être moins lourd pour vous. Amen. Donc, gloire à Dieu. Si votre mari est effacé, indifférent, nonchalant, il y a peut-être une dynamique comme ça. Mais vous devez vous en parler, prier ensemble que Dieu restaure le rôle dans le foyer à ce niveau-là. Quand les rôles sont tout inversés, ça va découler, il va y avoir toutes sortes de problèmes qui vont venir. Mais il y a un remède. Époux, prenez votre place. Épouse, appuyez votre mari dans la grâce. Amen. Donc, en terminant, j'ai 10 000 questions et j'ai 2 minutes pour vous répondre. Que dois-je faire pour élever mes enfants dans les voies de Dieu? Écoutez le CD une deuxième fois. Comment secourir ma famille qui semble aller dans une mauvaise direction chaotique? Écoutez le CD encore une fois. Devrais-je imposer mon ado les principes de la parole de Dieu? S'ils vivent selon votre toit, oui. Tu es dans ma maison, tu vas venir à l'église. Tu vas marcher dans les voies de Dieu. C'est comme ça que ça se passe, parce qu'ils sont sous notre autorité spirituelle. Mes enfants sont éloignés de Dieu et adultes. Est-ce que j'ai encore un rôle à jouer dans leur vie? Oui, vous devez prier pour eux. Et en même temps, écoutez bien ce dernier verset que je vous lis aujourd'hui, 1 Corinthiens 2, 14, ça dit « L'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, votre adolescente, admettons pas l'adolescente, une adulte, elle s'en va habiter avec son chum, vous êtes à l'envers, vous leur dites « Fais pas ça, c'est pas biblique, je t'ai enseigné les meilleures voies. » Puis là, vous essayez de convaincre votre enfant. Ils sont adultes. Et puis, à chaque fois que vous dites ça, vous les repoussez. S'ils ne sont pas nés nouveaux, quelqu'un qui n'est pas né nouveau, il ne comprendra pas les choses spirituelles. L'arme que vous avez, c'est la prière. Vous priez. Mais si vous essayez de raisonner, dire à quelqu'un, par exemple, l'avortement, ce n'est pas correct, quelqu'un qui n'est pas sauvé, ils ne comprennent pas. La Bible dit, ils ne comprendront pas parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est qu'on essaye de débattre des affaires. Ça ne donnera rien. Vous allez juste vous créer des problèmes entre vous. Donc, priez. Priez, 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 et Saint-Esprit va convaincre. Amen. Je termine. Le conflit semble définir mon couple et influencer négativement la famille. Que dois-je faire? Marcher selon l'Esprit. Marcher dans l'amour. Est-ce que ces choses-là, je vous ai donné plein de conseils aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu, il y a un cœur d'amour pour les familles dans cette Église. Il ne veut pas de divorce, il ne veut pas de dépression, il ne veut pas de conflit dans les familles. Il veut que sa gloire vienne, mais vous êtes la seule personne qui peut l'accueillir chez vous. Je n'irai pas chez vous. Il n'y a aucun pasteur de cette église qui va dire, cette place, ça appartient à Dieu. Eux et leur famille, ils vont servir l'Éternel. Mais vous pouvez le dire, monsieur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et comme vous allez le faire, Dieu va visiter votre famille, Dieu va restaurer les relations et Dieu va toucher vos enfants. Vos enfants, commencez à déclarer la parole de Dieu. Mes enfants sont remplis du Saint-Esprit. Quand on vient à l'église, un matin, j'étais béni, je n'ai pas dit de laver ses mains, puis de louer, puis adorer Dieu. Mais Félicité était là, puis elle louait Dieu. Des fois, les larmes qui coulent. Pourquoi? Ben, ce n'est pas une religion du dimanche, c'est la vie de chaque jour. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. On va se lever ensemble maintenant, je vais inviter l'équipe de la louange. Je vais prier pour vous, frères et sœurs. Amen. Père éternel, je veux te remercier parce que ce que tu nous dis dans ta parole, c'est possible et c'est ta volonté. C'est possible et c'est ta volonté. Et je prie, Seigneur, que tout esprit de mensonge qui voudrait nous faire croire le contraire, que ces pensées quittent nos vies maintenant. Seigneur Dieu, on fait le ménage dans nos pensées. Nous déclarons comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous prenons cette décision dans cette Église. Nous allons te servir. Nous allons marcher dans tes voies. Nous allons faire le ménage dans nos vies, dans notre divertissement à la maison, dans toutes ces choses qui pourraient nuire à l'avancement de ton règne dans nos vies. Et Seigneur, on prie. Je prie maintenant pour les pères dans cette maison, qu'ils puissent tous prendre leur place dans leur rôle comme chef spirituel de leur foyer. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses leur accorder cette onction vraiment de père, rempli d'amour pour leurs enfants, qui vont diriger leurs enfants et les instruire dans le chemin qu'ils doivent prendre. Je prie pour les femmes aussi. Je prie pour les épouses dans cette église, qu'ils puissent appuyer leur mari, qu'ils puissent les encourager à devenir les leaders que tu veux pour eux. Alléluia. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour les enfants également. Aujourd'hui, pendant qu'ils reçoivent l'enseignement à l'Académie de la foi, je te prie que ton Saint-Esprit puisse les rejoindre également. Aujourd'hui même, tous ceux qui ont besoin de vivre un changement, qui ont besoin de vivre une touche surnaturelle, je prie, Seigneur Dieu, qu'aujourd'hui même, cette révolution commence au nom de Jésus. Je prie que cette révolution commence et qu'on puisse voir nos enfants se réjouir et te louer de tout leur cœur, Seigneur Dieu. Et que dans cette maison, on puisse voir des fils et des filles prophétiser qui sont remplis de toi. Seigneur Dieu, c'est possible. Non seulement c'est possible, c'est ta volonté et nous l'acceptons dans nos vies. Nous déclarons ta sainte volonté dans nos vies. Et on a prié au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, je veux prier ce matin. Je veux prier, Seigneur, pour ceux qui sont devant un défi, qui se disent, je ne sais pas comment on va y arriver. Seigneur, je veux prier pour ceux qui ont besoin d'aide. Seigneur, viens les rencontrer ce matin. Viens rencontrer ces personnes que tu connais. Seigneur, viens les visiter par ton Saint-Esprit. Viens les consoler. Viens leur donner l'espoir, Seigneur, que le changement est possible. Donne-leur ta vision, Seigneur Dieu. Tous ceux pour, Seigneur Dieu, qui ont besoin d'aide en ce moment, qui disent, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui sont dans cette position, qui disent, aide-moi, Seigneur. Viens les visiter. Donne-leur cette vision du changement. Seigneur, des fois, notre réalité est tellement réelle qu'on se dit, c'est impossible. On a du mal à croire. Mais, Seigneur, que cette vision céleste vienne, qu'ils puissent le voir tellement devant leurs yeux, Seigneur, que c'est une chose, c'est une révélation de ta part, une révélation surnaturelle qui vient s'étamper sur leur cœur. Oh, Seigneur, donne-leur une vision surnaturelle et qu'ils puissent dire, non, moi, je ne me laisserai pas décourager. J'arrêterai pas de croire que ça se réalise chez moi, dans ma famille. Je crois que ça se réalise, cette vision de Dieu pour ma famille. Au nom de Jésus, je la reçois et je la chéris. Pour mes amis sur Internet, à la radio, tous ceux qui vivent peut-être des défis dans leur famille, peut-être dans le couple. Oh Seigneur, on veut te recevoir. Toi, le Saint-Esprit, le Consolateur, nous te recevons dans nos maisons. Nous te recevons et nous te disons, viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place, Seigneur Dieu, chez nous, dans notre maison. Que cette maison puisse être une maison fondée sur le rocher, remplie de ton esprit, remplie. Et nous, on va faire notre part pour s'assurer que cette maison est remplie de ton onction, de ta présence. Alléluia. Quand les gens vont venir chez nous, ils vont ressentir le Saint-Esprit. Ils vont ressentir la paix parce que nous avons consacré cette maison pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette vision surnaturelle que tu nous donnes. Alléluia. Tous ceux ce matin qui osent croire Dieu pour le miraculeux dans leur maison, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut te remercier pour cette réunion. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est encore actuelle pour nous. Même si la société change, toi, tu ne changes pas. Et merci parce que tu nous donnes une vie protégée dans ton onction, dans ta présence. Alléluia, merci pour ce chemin que tu dresses devant nous. Et nous décidons, nous marchons dedans. Nous te suivons, Seigneur. Nous marchons selon ta parole. Nos familles sont dans ta parole, établies sur ta parole. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Je déclare sur chaque tête ici, le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus, amen et amen. Soyez bénis, bon dimanche, mon groupe vie, à bientôt. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.